Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Lyon pour rencontrer et découvrir l'histoire du premier couple de Alors c'est pour bientôt et je suis très heureuse qu'il s'agisse d'Alice et Thibaut. Tous deux âgés de 26 ans, ils viennent me raconter leur parcours pour devenir parents. Nous parlons ainsi de la première fausse couche et des violences obstétricales dont Alice a été victime, puis de sa seconde grossesse qui arrive tout de suite après. Malheureusement, lors de la première échographie, on observe une clarté nucale très épaisse. Mais le médecin en charge du suivi n'est pas très inquiet, malgré tous les signes qui semblent pointer vers de grosses complications. Après une très longue attente, et un médecin qui ne prend pas tout ça très au sérieux, un DPMI, le dépistage de deuxième intention de la trisomie 21 par méthode non invasive, et une amniosynthèse, le diagnostic tombe. Et la généticienne leur annonce que Guillaume, qui est pourtant si actif dans le ventre de sa maman, a une translocation génétique déséquilibrée très grave. À plus de 6 mois de grossesse. Le mot est enfin prononcé, il faut faire une IMG, une interruption médicale de grossesse. Alice et Thibaut me racontent avec beaucoup de bienveillance et d'émotion leur histoire, comment ils célèbrent ce petit être Guillaume, et comment ils attendent la petite Elena qui est venue se nicher au creux du ventre d'Alice quelques semaines après cet accouchement si difficile. Aujourd'hui, et au moment de l'enregistrement de cet épisode, Alice et Thibaut vivent la fin de cette nouvelle grossesse en plein confinement. Encore un nouveau défi, mais Elena se porte à merveille, et c'est finalement ce qui compte. Alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Alice et Thibaut. Bonjour Alice et Thibaut, bienvenue sur le podcast, comment allez-vous ?
Ça va.
Ça va plutôt bien.
Super, bon c'est le premier couple qui nous rejoint sur le podcast, merci infiniment de vous prêter à l'exercice. Est-ce que vous pourriez vous présenter, peut-être que Alice tu peux présenter Thibaut et Thibaut présenter Alice. Qui êtes-vous ? Quel âge avez-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie et d'où est-ce que vous nous parlez ce soir ?
Alors Thibaut, bah il a 26 ans, il est ingénieur consultant à Gap 2 sur Lyon. Actuellement, il est en télétravail pour un client qui est domicilié à Issoire, ça, dans tout ce qui est pièces pour de la métallurgie, pour majoritairement, on va dire de la mécanique. Thibaut, comment on va dire, il se définit plus comme un alien.
Ah bon, intéressant.
Voilà, tu comprendras après pourquoi.
D'accord.
Et Alice, 26 ans aussi, femme au foyer et enceinte.
Ah ok, bah, écoute, ça résume plutôt bien. Donc vous êtes dans la région de Lyon, tous les deux ?
C'est ça.
Vous êtes originaire de cette région ?
Lui, il est lyonnais, moi je suis grenobloise.
D'accord, donc pas très très loin non plus.
Non.
Super, merci donc de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous le savez, le but du podcast, c'est vraiment de libérer la parole sur le désir de parentalité quand ça se passe pas forcément comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait souhaité. Est-ce que vous pouvez du coup me dire, me raconter un petit peu comment et quand vous est venue l'envie de fonder une famille tous les deux ?
Alors moi, ça a commencé assez tôt, bien avant que je rencontre Thibaut. On va dire vers 15-16 ans, le désir a commencé à émerger, mais on va dire qu'il y a eu assez de maturité pour me dire c'est pas le moment. Il faut une situation, il faut quand même une bonne relation stable. Et puis le désir a vraiment repris le dessus quand on a eu quasiment 1 an, 2 ans de couple. Et puis j'étais sous pilule, j'ai fait un arrêt cardiaque à cause de ma pilule.
Oh.
Et bon après j'ai un problème cardiaque de base, mais voilà, j'avais une pilule qui me ne convenait pas.
Ouais.
Donc, le temps après que mon corps évacue la pilule et tout, on a eu une fausse alerte, fausse couche en octobre. Donc, à ce moment-là, le médecin pensait que c'était soit un ovule qui avait explosé, soit c'était une grossesse extra-utérine, soit une fausse couche. Donc, finalement, c'était pas du tout ça, j'étais constipée. Mais sur le coup, le sujet a été un peu mis sur le tapis.
Ouais.
Et on s'est dit, lui, il était encore alternant à cette époque. Il finissait ses études, c'était sa dernière année. Mm-hmm. On s'est dit, 2019, on se lance. Et je l'ai un peu travaillé au corps pour vraiment se lancer parce que lui, c'était pas du tout dans ses projets dans l'immédiat.
Tu peux nous raconter, Thibaut, comment ça s'est passé de ton côté?
C'est ça, hein. Clairement, moi, j'étais en fin de cursus.
Pas complètement prêt, tout de suite.
Formation, donc j'étais là à me dire déjà, je vais avoir un changement de vie professionnelle. Alors, enchaîner en plus un changement de vie privée, ça va être assez comique.
Ouais.
Mais bon, au final, j'ai dit, allez, ça devrait bien marcher de toute façon, aucune raison.
Bon, super, d'accord. Donc, du coup, vous vous lancez donc début 2019, il y a un petit peu plus d'un an.
Ouais.
Ok, et comment ça se passe alors?
Ça s'est passé qu'on s'est dit qu'on se lançait pour la Saint-Valentin, un peu avant la Saint-Valentin. Première fausse couche. Fausse couche, on ne sait pas réellement pourquoi, parce que j'ai été très mal accueillie par le gynéco de garde. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai mon chat qui est tombé de l'étagère qui est à quoi bien 1,80-1,90 de haut sur mon ventre et ça m'a lancé des grosses douleurs et j'étais pas du tout rassurée. On s'est pointé, pas de sang, rien, mais des grosses, grosses douleurs, mais plus que des règles.
Donc, t'étais enceinte de combien de temps à ce moment-là?
On pense, c'était début, 5-6 semaines, aménorrhée.
D'accord, ouais, ok.
Mais j'avais eu le temps d'avoir un test de grossesse positif, les prises de sang largement positives. Et on se pointe chez le médecin, au service des urgences à côté de chez nous. Le gynéco de garde, désagréable comme tout, il refuse que Thibaut soit là pendant l'auscultation, alors que moi, j'étais complètement en panique.
Ah oui.
Donc, Thibaut avait juste décalé sa chaise pour voir ce qui se passait. Le médecin ne lubrifie pas la sonde, il me fout la sonde à sec, brutalement, au point de me passer le col.
Oui.
Donc, l'échographie, 5-6 semaines, on n'a rien vu.
Ouais.
Donc, il me dit, je sais pas si c'est une fausse couche. Je sais pas si vous êtes réellement enceinte. Alors que, j'avais mes prises de sang. Ouais. Et puis, au moment où je descends de la table, je me mets à saigner. Mais vraiment saigner. Et le lendemain, j'avais rendez-vous de base avec le gynéco qui devait suivre pour cette grossesse, qui me fait un curetage. Parce qu'au final, j'étais en pleine fausse couche. Et j'avais des bleus au vagin, dans le vagin, dans l'utérus. Il m'avait complètement laminé. Donc, assez traumatisant.
T'en as parlé de cette expérience avec ce gynéco d'urgence?
Avec mon gynéco, c'était un collègue, c'était dans la même clinique. Et lui, il a fait il m'a dit qu'après, il avait parlé avec son collègue, il l'avait un peu engueulé. Donc, voilà.
Du coup, cette grossesse, elle est arrivée combien de temps après le début de vos essais bébés?
Ah, tout de suite.
Ah, d'accord. Donc, c'est plutôt bonne nouvelle, quoi. Vous arrivez.
Voilà, là-dessus, il n'y avait pas de problème.
D'accord.
Donc, le médecin me dit, je lui dis, faut sûrement que j'attende un peu. Il me dit, non, le médecin que je voyais, c'est un spécialiste en fertilité. Il me dit, non, faut vous remettre tout de suite dans le bain. Faut profiter du pic de fertilité.
Parce qu'on parle souvent, après, en fait, un début de grossesse, qu'il y a un pic de fertilité le cycle suivant, c'est ça?
C'est ça, que ça soit une fausse couche ou un accouchement, il y a le même saut d'hormones. Donc voilà. Fin mars, on a repris les essais mi-mars. Fin mars, j'ai dit à Thibaut, je crois que je suis enceinte. Je fais des tests. J'en ai fait en tout 8. J'en ai fait 6 avant d'en avoir un positif. Donc notre fils s'est logé avec son frère ou sa sœur jumelle le 26 mars. Si je ne me trompe pas dans les calculs. Ce qui était prévu pour le 25-26 décembre.
Okay.
Je perds le jumeau peu de temps après.
D'accord.
Voilà. Guillaume s'accroche. Enfin, il a été aidé. J'ai été sous progestérone. Donc, nous, on était contents. On s'est dit, on n'a pas de difficultés.
Déjà, il y en avait au moins un.
Il y en avait au moins un dans les deux. Mais on s'est dit, bon, bah, ça, tout le monde nous disait, les fausses couches, ça arrive, c'est pas un problème. Et puis, bon, en témoignage, sa mère a fait deux fausses couches, sa sœur a fait une fausse couche, sa tante a fait une fausse couche, ma mère a fait des fausses couches, ma grand-mère, elle sait pas. Mais voilà, en fait, dans notre entourage, quand on en a parlé, on s'est rendu compte qu'en fait, la fausse couche n'était pas anodine. Donc, en début.
Pas du tout hors du commun, quoi, finalement. Ouais.
Voilà. Donc, on s'est dit, bon. Et puis, on a vu que ça s'accrochait. J'ai vu le bébé à la côte d'attation. Il tenait bien. Bon petit cœur. Bonne taille.
Okay.
Et puis, ça a commencé à merder la première échographie obligatoire.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que la clarté nucale à la mesure était pas du tout, du tout, du tout bonne. Elle était à 3,77 mm.
Ce qui est trop gros.
Trop gros, ouais. C'est au-dessus de 3, c'est pas bon.
Mm-hmm.
Voilà.
Et c'est signe de quoi alors, la clarté nucale?
C'est soit signe de trisomie, majoritairement trisomie 21.
D'accord.
Donc le gynéco nous me fait passer la DPNI. Donc là où je passe la DPNI, c'est la DPNI plus le tri-test. C'est les deux
alors,
combinés.
Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Tu peux nous expliquer de quoi il
alors,
s'agit?
Alors la DPNI, c'est le dépistage prénatal, prénatal intrusif. En fait, c'est une prise de sang pour savoir. Bon, le tri-test, c'est pour savoir le pourcentage de chances qu'il y a d'une trisomie 21, 13 ou 18.
Mmh.
Et la DPNI, c'est un tout petit peu plus précis. C'est soit c'est positif, soit c'est négatif.
D'accord.
Voilà. Après, laquelle, on ne sait pas. Donc la DPNI revient positive, avec une chance sur 1 sur 10 que l'enfant soit trisomique.
Ah ouais.
Donc notre monde s'écroule parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il a? Quelle trisomie il a? Parce que nous, on pense 21, 13, 18, tout de suite,
les plus connus.
Mm-hmm. Donc, je passe une amniocentèse à 15 semaines et 6 jours. Le bébé, en attendant, grandit bien. Il a un bon poids, une bonne taille. Mm-hmm. Pas de signe de malformation au niveau du visage aux échographies. Les échographies sont nickels. Et puis, mi-juillet, le gynéco m'appelle. Le jour de la sortie du Opalion, pour dire, donc c'était vraiment précis. Il m'appelle, il me dit j'ai une mauvaise nouvelle. Enfin, déjà on a eu un appel. Votre bébé n'a pas de trisomie 13, ni 18, ni 21, et c'est un petit garçon. Donc on s'est dit c'est bon.
Ouais. Gros soulagement.
Soulagement. Peu de temps, 15 jours plus tard, il nous appelle, il me dit mauvaise nouvelle, votre enfant a une translocation chromosomique déséquilibrée.
Oh, qu'est-ce
pas
que c'est que ça?
Alors, qu'est-ce que c'est? Alors,
vous aviez aucune idée de ce que ça voulait dire à ce moment-là?
À ce moment-là, on ne savait pas du tout ce que c'était.
Et on ne vous avait pas du tout préparé à cette possibilité non plus?
Non plus. Les gynécos n'en parlent pas du tout.
Ouais.
Ils parlent que de la trisomie 21, 13, 18, du bec de lièvre, mm-hmm. et puis c'est tout. Des malformations, on va dire, qui sont visibles à l'extérieur du fœtus, pas celles qui sont en interne. Donc, si tu veux que j'explique ce que c'est une translocation.
Ouais, bien sûr.
Alors, en fait, une translocation chromosomique, c'est en fait au moment de la conception, logiquement, on apporte chacun notre patrimoine de moite-moite. Et en fait, nos chromosomes, on a, je me souviens bien, c'est 26 chromosomes chacun. Et en fait, nos chromosomes, ils se coupent en deux pour faire la moitié-moitié. Sauf que, dans notre cas, ça s'est mal fait. Il y a un chromosome qui s'est déplacé dans une autre paire. Donc en fait, les trisomies 21, 13 et 18 sont des translocations chromosomiques déséquilibrées, mais c'est celles qui sont les plus courantes. Sauf que nous, c'était pas ça. C'était pas ni 13, ni 18, ni 21.
D'accord.
Donc,
qu'est-ce qu'on vous propose du coup à ce moment-là et qu'est-ce que vous faites du coup quand on vous annonce alors, ça? Vous faites des recherches, vous cherchez à vous renseigner auprès d'experts. Quelles sont les futures étapes?
Alors non, le gynéco me demande de venir en urgence, donc je me pointe le temps de faire le cinéma jusqu'à la clinique, bien une heure et demie de bus, en plein mois de juillet, enceinte de 5 mois. Voilà. Donc je me pointe, il me dit qu'il faut qu'on fasse en urgence un dépistage parental, une recherche génétique, parce que en fait le labo qui a fait nos analyses ont dit que généralement c'était génétique, mais ils lui ont pas dit laquelle de translocation c'était, ils lui ont pas expliqué, le gynéco il savait pas du tout ce que c'était.
Okay.
Donc moi je l'ai fait le jour même, toi tu l'as fait dans la semaine. Parce que lui, il n'était pas là, il était à...
J'étais encore en formation, donc en apprentissage, j'étais à l'autre bout du pays.
Voilà. Donc, on a reçu ça.
Oui. Question, du coup, c'est peut-être bête, mais du coup, les tests qu'ils avaient faits, c'était à la première écho, donc des 3 mois. Comment ça se fait que tu aies les résultats, du coup, à 5 mois?
La myosynthèse, ça a été assez rapide, on va dire. Il a respecté les délais, les délais d'annonce. Par contre, les résultats définitifs, je les ai eus exactement à quasi 6 mois.
Ah ouais.
Parce que, en fait, entre temps, le médecin, pour lui, c'était pas grave. Il a été en vacances 5 semaines sans me transférer à un collègue. Donc, pendant 5 semaines, j'ai fait une consultation. Et il ne m'a jamais parlé d'IMG, ni de complications, rien. Pour lui, le bébé allait très bien.
Donc, on t'annonce un truc qui potentiellement est grave, mais personne ne t'explique vraiment de quoi il s'agit. Et voilà. On te laisse... Donc, vous allez vous faire vos tests parentaux, chacun.
Voilà.
Mais du coup, il n'y a personne pour vous expliquer ce qui va se passer, ce que ça peut vouloir dire pour votre bébé.
Et on va dire que ce qu'on a eu la chance, c'est que mon frère est étudiant en médecine, en immunologie plus bactériologie, et que lui, en fait, il fait de la modification génétique de bactéries. Donc, la génétique, c'est son truc.
D'accord.
Donc, je lui ai demandé, et il m'a dit, c'est lui qui nous a expliqué un peu près en large et en longueur, mais en nous disant, lui, ça peut être grave. Ça peut être très grave pour le bébé, pas pour toi.
Mais
pour le bébé. Ça peut aller d'un léger retard mental à un légume.
Ah ouais.
Donc, tu vois, la palette est large. Parce que léger retard mental, ça peut être quelqu'un qui... J'ai un de mes frères qui a un léger retard mental. Il a juste pas de mémoire. Mais ça peut aller de ça... dans un lit, intubé de partout. Voilà. Donc, pareil, complètement le faux. Mais lui, comme on n'avait pas les analyses, il ne pouvait pas me donner plus de détails.
Bien sûr.
Donc, on ne sait pas comment, parce que les analyses génétiques, logiquement, ne sont pas transmises aux patients, mais directement aux médecins. C'est la loi française qui impose ça. Donc, on ne sait pas comment on a reçu une copie du test génétique de Thibault.
Ah ouais.
Voilà, qui nous a révélé qu'il était porteur d'une translocation chromosomique équilibrée. Donc lui, à peu près, c'est que lui, il y a eu le chimique bic au niveau des chromosomes quand il a été conçu, sauf que ces chromosomes se sont équilibrés. C'est juste qu'en fait, dans ces chromosomes, il y en a, au lieu d'être...
Toutes les paires sont normales.
Toutes les paires sont pas normales, il y en a deux qui déconnent, mais elles sont équilibrées, elles se sont auto-équilibrées.
D'accord.
Donc, aucun impact sur sa santé.
D'accord, bon, très bien. Enfin, très bien pour Thibaut, mais du coup, ça peut être du coup transmis. Ça peut être ce qui est recherché justement dans ces tests, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ce qui est recherché.
C'est ce qui est recherché.
D'accord.
C'est ça justement qui est la source du problème.
Voilà.
D'accord.
Donc pareil. Donc on a dû attendre la deuxième échographie obligatoire pour avoir le gynéco, où il a fait toute l'écho. Tout allait bien. Enfin, il s'est un peu moqué de Thibault en disant, alors monsieur, vous faites remarquer.
Sérieux?
Voilà.
Lui, il connaissait rien. Donc, pour lui, il savait pas ce que c'était. C'était flou. Donc, tant que le bébé, pour lui, physiquement, il allait bien.
Ouais.
Et c'est que tout allait bien. C'est tout roule.
Ouais.
Donc, pour lui, tout allait bien.
Voilà. Donc, l'écho, la deuxième échographie obligatoire, Guillaume, bon bébé. Il estime entre 3,8 kg et 4,2 kg.
Ouais, bon poids, super.
Voilà, on a une écho 3D, pas de malformation visible au visage. Il a fait une suspicion de pied beau. Mais bon, ça, c'est courant.
D'accord.
Enfin, il bougeait beaucoup, donc il ne sait pas. Il ne savait pas à ce moment-là. Et puis, il nous informe, il nous donne les résultats enfin de Guillaume et des miens. Donc, bah, spécifiquement, en fait, la translocation qu'il y a entre bah, Thibaut et Guillaume, c'est en, dans le chromosome 7 et le chromosome 9. Donc, okay. Au final, bah, Thibaut est équilibré en 7 et 9 et Guillaume avait une trisomie 7 et une monosomie 9. Donc, il a trois chromosomes 7 et un chromosome 9. Il y a le 9 qui est venu se foutre avec les 7.
Okay.
Donc, le problème, c'est que bah, le chromosome 9, on va parler un peu plus technique, gère tout ce qui est groupe sanguin. Et chromosome 7 n'a pas encore n'a pas encore été défini par les scientifiques et les médecins.
Ah ouais, d'accord.
Mais s'il décolle, tu as une palette de syndromes de très graves, énormes. Mm-hmm. Donc, quand tu cherches à savoir bah, à quoi sert ce chromosome et qu'on te parle de syndrome de machin, syndrome de truc, où on te dit bah, le gamin va être petit, il va être retardé mental, il va être déformé. Le médecin, il te dit je sais pas ce que c'est, il faut que vous allez y voir un généticien, j'en connais une super, mais il met un mois à te donner un rendez-vous en urgence.
Ouais.
Voilà, donc c'était fin août, j'ai vu la généticienne mi-septembre.
Et ton terme était prévu pour quand? Pour décembre, c'est ça que tu disais?
Pour Noël.
Ouais, donc t'étais quand même sacrément bien avancée dans ta grossesse et on t'a toujours pas dit
que c'était.
On t'a toujours pas dit ce que c'était et ouais, on a même pas cherché particulièrement à te préparer ni toi ni Thibaut.
Non.
Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Vous en avez parlé un petit peu autour de vous? Comment ça s'est passé?
Bah moi, vu que j'étais en apprentissage, c'était souvent ma mère qui l'accompagnait au rendez-vous. Donc déjà là, il y avait un soutien qui était quand même déjà pas mal.
Ouais.
Derrière, bah, de toute façon, personne ne savait ce qui se passait. Donc, on était tous dans le flou. On était tous
attendre.
Un peu frustrés d'attendre, mm-hmm. sans avoir de réponse instantanée, je dirais. Et surtout, ouais, comme elle dit, les rendez-vous qui mettent des mois à être pris alors que c'est entre guillemets en urgence.
Bah ouais, bien sûr.
Forcément, il y a un peu de frustration et de colère qui monte. Et puis voilà, jusqu'à arriver à avoir le rendez-vous.
D'accord. Voilà, donc je vois la généticienne avec ma belle-mère parce qu'il fallait faire tout l'arbre généalogique génétique de ma famille et de sa famille. Moi, même en bientôt 5 ans de couple, les oncles et tantes de Thibaut, les anomalies de ce côté-là, je ne sais pas.
Mm-hmm.
Que ça soit autant de son père que de sa mère. Enfin, je sais juste qu'ils sont daltoniens dans sa famille. Donc, la généticienne, elle débarque en urgence. Elle sait pas. Elle voit les analyses. Il manquait la moitié des infos. Elle était en panique, mais elle me dit « Je prends tout, mais ne vous attendez pas que je vous donne une bonne nouvelle. »
C'est surtout qu'en fait, le généticien n'a pas transmis un seul dossier à la généticienne.
Voilà.
Alice a donné tout le dossier qu'elle avait monté au fur et à mesure de la grossesse. Qui lui a donné toutes les docs.
C'est
avec
dingue.
Tous les relevés, tout. C'est
ça
nous
a été,
qui avons fourni au final
ça a été le bordel.
Les infos.
Et c'est dû à quoi ça?
C'est le gynéco, il est comme ça.
C'est que le gynéco est dans une clinique privée sûrement et que là, la généticienne est dans le public. Donc peut-être que ça a un impact, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, rien n'a été transmis entre médecins.
Voilà.
Ah,
et elle était en colère. Hein. Elle était vraiment. Elle se retrouve entre guillemets avec la bombe découpillée, quoi. C'est avec la grenade découpillée.
Bien sûr.
Prête à exploser. Et il faut me gérer moi qui suis enceinte quand même de quasi 6 mois et demi, qui rentre dans son dernier trimestre, je précise qu'à la T2, il nous a dit qu'on pouvait préparer l'arrivée du bébé.
Mmh.
Voilà. Donc moi qui m'attends à avoir quand même un minimum d'espoir, elle se retrouve avec avec un truc qui est pas bien pour elle était pas à l'aise.
Ouais.
Donc c'est un jeudi, ma belle-mère m'impose heureusement de venir chez elle pour pas que je me retrouve toute seule parce que la généticienne nous a dit que ça sentait pas bon. La généticienne m'appelle le vendredi soir à 21h, donc pour te dire c'était vraiment pour qu'elle ait pris le truc pour me dire que de ses recherches, elle a vu des translocations, mais elle n'avait jamais vu notre cas en particulier.
D'accord.
Mais qu'après recherche auprès d'autres collègues au niveau France, c'était une translocation très grave, qu'il fallait que je passe une échographie morpho plus approfondie avec un spécialiste, qu'il fallait que je vienne assez rapidement à l'hôpital de la Croix-Rousse, là où elle exerce. Donc, bah, c'est pareil, tout en bas de combat, mais nous, on pleure.
Bah ouais.
Mais elle nous dit que clairement, il aura un très lourd retard mental. Donc, on a un avantage, c'est que bah, le papa de Thibaut est médecin urgentiste. Donc, bah, il a l'habitude de voir les parents avec les enfants lourdement handicapés. Mmh. Et il a été assez cash, il nous a dit clairement comment ça se passait, lui, en tant que médecin, comment lui, et comment il voyait la fatigue des parents et surtout des mamans qui géraient ses enfants lourdement polyhandicapés. Mmh. Et il a dit, c'est pas une vie pour toi, et c'est surtout pas une vie pour lui. Et t'es pas maman, t'es médecin, t'es infirmière, t'es aide à domicile, mais t'es pas maman. T'es... Mmh. Il me dit, je fais de l'eugénisme, il me dit, ça va peut-être être méchant pour toi, mais c'est de l'eugénisme.
Faut c'est
penser,
la vérité.
Voilà, c'est la vérité. Faut penser à interrompre cette grossesse.
Comment vous avez réagi à ça?
Panique à bord. Enfin, pour moi, c'était avec en plus les hormones. J'avais ce désir enfin concret de bébé. Je me disais, la première fois, ça a merdé. Là, ça remerde. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, clairement, pour mériter ça? Surtout que bah, j'ai pas un parcours, on va dire, familial classique. Mm-hmm. Bien. Donc j'étais là, et puis j'étais chez mes beaux-parents. Voilà, j'étais pas dans ma famille, j'avais pas mon coco à moi, donc j'étais complètement, j'avais pas Thibaut encore là. Toi
Bon, moi j'étais pas là du tout.
Oui, mais
j'étais
encore
le du pays. Et bah moi, du coup, bah j'attendais. De toute façon, ça c'est ok, c'est une conséquence. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Donc moi, j'attendais juste le rendez-vous pour en savoir plus, quoi, simplement.
Ouais. Tu faisais pas de, t'anticipais pas ce qui allait se passer, t'attendais qu'on te dise clairement ce qu'il en était, quoi.
Bah voilà, moi je suis plus, j'attends d'avoir les informations avant de réagir, parce que avant ça sert à rien, c'est d'anticiper sans dans le flou, on y connaissait rien, donc totalement dans le flou. Ça ne sert à rien d'essayer d'espérer ou pas ou de réagir par rapport à ça. Enfin,
Non, c'est une grande force, hein. C'est pas facile de réussir justement à retenir ses réactions, je comprends. Enfin, c'est, ouais.
Bah, tant qu'on n'a pas l'information finale, pour moi, ça sert à rien. Donc, faut attendre les résultats et après, oui, on peut prendre une décision et réfléchir.
Mais après, le fait d'avoir quand même les beaux-parents qui ont été là, puis lui, il est rentré le week-end, il est rentré sur Lyon, mais il est rentré directement chez ses parents. Mm-hmm. Donc, on a pu en parler à quatre, plus concrètement. Mm-hmm. Donc la semaine d'après, j'ai eu rendez-vous avec l'échographie spécialisée. Donc bah Guillaume, le cœur parfait, les intestins parfaits, petite atrophie des genoux, encore ça, atrophie génitale, donc signe de trisomie. Ça bizarrement le gynéco, vu qu'on avait eu le test avec la myosynthèse, on avait su le sexe, il a jamais vérifié les organes génitaux du fœtus.
Ouais ouais.
Parce que ça servait à rien, on savait déjà le sexe. Mmh. Et au moment où on est passé au cerveau, t'es maman, donc tu sais comment ça se passe, une échographie du cerveau d'un fœtus. Bah là, c'est en plus gros plan. Et t'imagines que en taille de tâche des noix, plein de noix dans le cerveau de ton bébé.
Qu'est-ce que c'est?
C'est des trous, c'était des calcifications du cerveau, c'était en fait à ces endroits-là, son cerveau c'était de l'os.
Donc ça, mais c'était partout. Dû à la translocation.
C'était ça. Donc j'avais l'échographiste, elle a duré une heure et demie. Hein. Il me l'a fait en abdominal et en vaginal. J'avais la généticienne qui était à côté, j'avais ma belle-mère. Donc t'imagines que ma belle-mère m'a vu en maillot de bain la seule fois elle m'avait vu. À peu près dénudée, c'était en maillot de bain, là, elle m'a vu quasiment à poil, avec une fonde dans le vagin. Donc, moi, j'en rigole maintenant, mais heureusement qu'elle était là pendant les
cours,
pendant une heure et demie, à me masser l'épaule, à me soutenir.
Bien sûr.
Bon, elle aussi, elle a compris qu'on a vu les trous, on s'est regardé dans les yeux. Même moi, ma décision pour l'IMG, c'était acté,
ouais. T'as pas eu besoin qu'on te l'explique, quoi.
Voilà, c'était. Mais le bébé actif, tu vois, j'avais un bébé quand même hyper actif pendant toute la grossesse, il bougeait, il réagissait. Extérieurement, il allait bien, mais c'est juste son cerveau qui était touché. Juste le cerveau, bon, les genoux et le... Juste le cerveau. Et la généticienne, même quand j'ai vu la généticienne, la tronche de la généticienne, quand on a vu le cerveau, parce que l'échographiste, il a gardé la tête sérieuse tout le long, mais quand j'ai vu sa tête, j'ai fait... C'est bon, c'est acté.
Ouais.
Là, tout de suite, elle nous a parlé d'IMG. Bon, elle en avait un peu abordé le sujet, mais pas trop, vu qu'elle voulait pas... Là, c'était faut interrompre. Ça sert à rien, votre bébé... Il avait même pas 5% de chance de survivre à terme et à l'accouchement. Donc, dans tous les cas, il était condamné, ce bébé.
Ouais.
Voilà. Mais le problème, c'est que, bah, quand on le sait à, moi, quand on le sait dans le premier trimestre, c'est un bébé, mais c'est, il y a encore un peu le stade, tu sais, des termes légaux pour l'IVG. Donc, tu culpabilises un peu moins. Deuxième trimestre, pas, mais quand tu rentres dans le troisième trimestre, qu'on te dit préparez vous pour le bébé, il va arriver, vous allez avoir un beau bébé, et que bah, là on te dit qu'on va tuer le bébé, c'est clairement ça, parce que le terme médical c'est un féticide.
Ouais, c'est horrible.
Donc voilà, rebelote, enfin moins que la première fois, mais vide, 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 vide.
Ouais. Et, Thibaut, t'as pu rentrer à ce moment-là, du coup ?
À ce moment-là, non.
Il était reparti.
Moi, j'étais déjà reparti.
D'accord.
Et après, de toute façon, si j'étais revenu...
T'as fini début mi-septembre.
Ouais, j'ai fini fin septembre.
Fin septembre, ouais.
J'ai fini fin septembre, et du coup, bah, après, je suis remonté, j'avais du temps, on va dire.
T'as commencé ton taf en novembre. Mois.
Parce que du coup, j'avais signé mon contrat... fin septembre, on va dire.
Pour début novembre.
Pour début novembre. Donc, j'avais tout le mois d'octobre de présence.
D'accord. Et donc, l'IMG, du coup, a eu lieu à quel...
Le 10 octobre.
D'accord. Donc, du coup, Thibaut était avec toi. Enfin, c'est...
Ouais, tout la fin de la grossesse.
Après, on était là tous les deux.
Voilà.
Tout le
ouais,
tout
le
ouais, ouais. D'accord.
Et donc, alors, après, comment ça s'est passé, du coup? Ouais. Bah, le temps de mettre en place, le temps de décider d'une date, parce que c'était fin septembre, hein, que j'ai vu l'échographe. Hein. Le temps de mettre en place, bah, vu que moi je suis du 8 octobre, j'ai dit je ne veux pas le 8 octobre. J'avais peur de choquer la généticienne, mais je dis moi je veux pas que mon anniversaire soit associé à ça. Je veux pas chaque année me rappeler que j'ai accouché de mon bébé mort cette date-là. Donc, ils ont été compréhensifs. Le temps de mettre tout en
place. Très légitime hein, comme demande, je pense.
Oui, mais bon. Ça a été quand même dur parce qu'il y a une semaine de délai.
D'accord.
De réflexion. Donc, de toute façon, la décision était prise. Le conseil génétique de l'hôpital de la Croix-Rousse avait été largement favorable. Hein. Il n'y a aucun médecin qui a été contre la demande de la généticienne. Donc, j'ai vu l'anesthésiste le 8 pour la péridurale, parce que la péridurale est obligatoire pour un IMG tardif. Moi qui souhaitais accoucher sans péridurale, là, j'ai pas eu mon mot à dire.
Ouais.
Donc, je suis rentrée le 9 au soir. On m'avait donné les médicaments pour déclencher le ramollissement du col le 8. Le 9 au soir, je rentre. On me pose les tampons le 9 au soir. Thibaut a pu être là tout le long, donc il a dormi sur place. Lui, il a bien à peu près, il a dormi. Bien, je pense pas, mais pas dormi. Moi, j'ai pas dormi. Le lendemain, on m'enlève les tampons, ben, on me met en salle de travail, pose de la péri qui marche pas.
Tout le long.
Non, elle a marché sur la jambe. Non, j'avais pas, elle marchait pas, je chantais pas, le produit ne marchait pas. J'avais que la jambe anesthésiée.
Ah oui, d'accord.
Donc, bah, j'ai senti toutes les contractions. Bon, heureusement, j'ai pas eu mal. C'est juste le tensiomètre qui me cassait les burnes, clairement. Parce que, bah, quand tu dors pas, qu'on te dit, bah, votre accouchement, on peut mettre entre 9 et 12 heures. T'as pas dormi, que tu sais que tu dois pousser. Puis, à 17h30, la machine de la périsse m'a sonné pour nous dire qu'il y avait plus de produit. L'infirmier anesthésiste revient, il remet une dose. Je lui dis, en fait, votre péri, elle marche pas. Je sens rien que dans ma jambe droite, mais je sens tout partout. Et puis là, je lui dis, par contre, j'ai envie de pousser. Est-ce que c'est normal? Parce que quand c'est le premier, tu connais pas.
Mmh, bien sûr.
Il dit, je sais pas, je vais aller voir la sage-femme. Je dis, oui, oui, allez chercher la sage-femme parce que je pense. Et en fait, il était là, il était en train de sortir. Donc, à 18h02, il est sorti. Mais il est mort, on va dire. Pour moi, il est mort le matin. Parce que le féticide a eu lieu le matin.
Donc, c'est quoi? C'est une injection qu'on te fait?
C'est deux injections. Moi, j'ai eu deux injections parce que, enfin, c'est logiquement une seule aiguille et il y a deux injections. T'as un anesthésiant parce que ils se sont rendus compte qu'à passer 5 mois, le fœtus ressentait la douleur.
D'accord.
Ils font un peu comme les animaux, hein. On anesthésie et après on endort. En fait, on cause un arrêt cardiaque.
D'accord.
Donc, bah, ponction dans le bide, hein, avec le drap, le champ stérile, la sage-femme spécialisée dans les grossesses pathos qui te bouche les oreilles. T'avais un moment où le Thibaut aussi, parce qu'en fait, t'es en salle de travail, donc t'es avec les autres mamans qui accouchent.
Ah ouais.
Mmh. Tu entends les mamans qui poussent, tu entends les bébés qui pleurent. Toi, tu sais que tu vas accoucher d'un bébé qui ne va pas pleurer. Mmh. Mais quand ils ont piqué, j'ai eu un soulagement. Je me suis dit, c'est bon, c'est fait, il est parti, il souffrira plus.
Ouais.
Voilà. Quand il est sorti, elle est partie tout de suite avec, hein, Thibaut.
Mmh, ouais.
J'ai pas pu aller le voir. Pas pu parce que la généticienne m'avait prévenu qu'il restait quand même d'avoir peut-être une malformation du visage. Moi, je voulais rester avec cette image du beau bébé que j'avais sur mes épaules.
Bien sûr.
Thibaut, il a pu y aller. T'es resté quoi, 20 minutes? Bah, pendant les 20 minutes, j'ai eu une révision utérine. Bon, mon accouchement, entre guillemets, était parfait, hormis le côté morbide.
Bien sûr.
J'ai bien accouché en 30 minutes, j'ai poussé correctement. La sage-femme m'a dit que j'avais très bien poussé. Bon, j'étais quand même exténuée. J'ai pas eu de problème au niveau de l'expulsion du placenta. Je marchais deux heures après le retrait de la périe. Nickel. Entre guillemets, hormis le côté morbide.
Ouais.
Donc, Thibaut est revenu. Il m'a dit que quand même, il y avait un petit peu...
Ils ont été sympas. Ils ont dit qu'ils pouvaient prendre des photos.
Ouais.
Si on voulait. Donc, il a pris une photo. J'ai demandé qu'ils en gardent de côté, donc ils sont mis dans une enveloppe, comme ça en fait au moment venu Alice aurait pu regarder.
D'accord.
Donc ça on l'a gardé en souvenir. On a aussi demandé des petites choses qu'ils ont, donc le bracelet par exemple, avec son nom, avec voilà, le bracelet d'hôpital quoi, et une empreinte voilà, soit de main soit de pied. Alors vu qu'il a été déjà un peu rigidifié, en fait il n'a pas pu déplier la main, donc on n'a eu que le pied.
Oh, petit chou, d'accord.
Voilà.
Et voilà.
Ok.
Donc
après, voilà, on avait. Ils proposaient des boîtes, des trucs. Moi, j'avais une petite boîte que j'avais fait moi ici.
Mm-hmm.
Donc, on a pu mettre ça, tout ça dedans. Après, voilà, c'était un peu. Pour la suite, c'était aussi ce qui nous a permis de faire un peu plus le deuil aussi, c'est de faire une petite boîte plus jolie avec plusieurs choses dessus. Ouais.
On a pris un coffre à Cultura en forme de livre.
Mm-hmm.
Où on a mis sur la côte. Un G, et devant, on a collé une plaque avec marqué Guillaume, 10 octobre 2019, 18h02, avec des petits anges, et on a tout mis dedans, il est sur notre armoire derrière. Donc,
il est avec nous, en fait.
Voilà. On a eu la crémation le 30 octobre.
Ouais, c'est un sacré bout de temps après, quand même.
Bah, en fait, légalement, dans les cas d'IMG ou de mort fœtale in utero, il y a 12 jours de délai pour récupérer le corps. Parce qu'en fait, dans le Grand Lyon, la mairie de Lyon se propose de prendre en charge les obsèques. Parce que nous, le lendemain, on voit l'assistante sociale. Mm-hmm. On n'y connaît rien. On a jamais enterré. Habituellement, on enterre nos grands-parents.
Bien sûr.
On n'enterre pas un enfant.
Ouais.
Donc, l'assistante sociale nous a bien expliqué que c'est l'hôpital prenait en charge avec la mairie.
Ou les démarches à faire, c'est nous qui voulions prendre en charge.
Voilà.
C'est les deux options quand même.
Il y a les deux options. Mais nous, vu qu'on ne savait pas du tout comment faire, avec la chute d'hormones, le deuil et tout, moi, je préfère, vu que c'est majoritairement moi qui gère l'administratif, je ne me sentais pas de le faire. Donc, il y a les 12 jours de délai si on voulait changer d'avis. Le temps que. Après, que le temps que, y ait une place. Hein, parce que Lyon, ce n'est pas une petite ville.
Ouais,
il y a qu'un seul crématorium. Enfin, il y a une seule.
Ils ont le seul endroit où ils le font de l'hôpital, c'est vers la Guillotière.
Voilà, c'est le temps d'attente. Mais pareil, le 30 octobre, ça a été le matin. On y allait tous les deux. On a eu un quart d'heure avec le cercueil, un peu plus. Mmh. Ils ont été super gentils avec nous. Ils nous ont donné un petit cœur en pierre dans un petit coffret qui est devant le petit coffre que nous, on a fait pour Guillaume.
Oui.
Et puis bon, bah, après la généticienne, bah, le petit beau est porteur d'une anomalie chromosomique. Là, il y a eu forcément la question de est-ce que vous voulez retenter d'avoir un enfant de vous?
Ouais.
La PMA, parce que l'hôpital de la Croix-Rousse, il y a deux centres de dépistage anténatal à Lyon. Donc moi, le plus proche, c'est la Croix-Rousse. Donc c'est là où il y a la PMA. Hein. Donc elle s'est spécialisée heureusement la généticienne qu'on a, elle est spécialisée dans les couples avec malformations génétiques. Donc,
et vous, voilà. Vous sentez repartir rapidement sur ce projet bébé?
Ouais. Moi oui, parce que j'étais dans le sang. Je veux pas laisser sur un échec. J'étais. Puis je pense qu'il y a les hormones aussi qui ont joué, surtout. Mais lui, ça a été dur à convaincre. Et puis je l'ai retravaillé au corps et puis on s'est dit on attend le retour de couche et on voit après. Donc mon retour de couche, je l'ai eu mi-novembre.
D'accord.
Et puis notre pépette actuelle, elle s'est logée fin novembre, naturellement, parce que c'était la dernière chance naturelle qu'on avait autorisée par la généticienne.
Eh ouais.
Voilà, parce qu'elle nous a dit qu'en fait, techniquement, il y a deux chances sur trois qui est une récidive.
Donc un nouveau problème génétique, tu veux dire?
Un nouveau problème, voilà. Et dans la seule chance qui reste où ça se passe bien, c'est 50% elle est comme lui, 50% elle est comme moi. Donc soit elle est 100% saine, soit elle est porteur saine. On a eu du pot, elle est porteuse saine, elle est comme son papa.
D'accord.
Mais c'était notre dernière chance. Après, sinon, c'était la fécondation in vitro avec un dépistage pré-implantatoire.
D'accord. Ok.
Voilà.
Bon, alors félicitations pour cette nouvelle grossesse. C'est prévu pour quand?
Alors, elle est prévue pour le 25 août.
Ok.
Donc là, je suis dans mon quatrième mois.
Super. Et comment se passe la grossesse?
Hormis le diabète gestationnel, les premiers trimestres ont été assez mouvementés parce que grossesse suite à un IMG, déjà il fallait convaincre le nouveau gynéco que j'étais bien enceinte.
Parce que moi, t'as changé de gynéco, on est d'accord?
Ah, oui. La généticienne, elle l'a signalé au conseil de l'ordre des médecins.
Très bien.
On a eu les excuses du professeur Youssoud qui gère le service maternité. Et le dame de la Croix-Rousse qui est venu en personne s'excuser de ce qui s'était passé, qui avait eu clairement d'énormes erreurs médicales et de gestion du dossier. Ouais. Ils avaient signalé le médecin au conseil de l'ordre que malgré le fait qu'il soit très réputé sur la région de Lyon, le précédent gynéco, fallait quand même pas le laisser juste avec une petite tape sur les mains. Hein. Parce que la généticienne, je recevais les courriers qu'elle lui envoyait par les copies. Elle lui envoyait des courriers, ils sont salés. Hein.
Mais c'est bien. Enfin, au moins, vous avez eu quelqu'un quand même qui a pris votre défense et
vous aviez
autre chose à penser quand même que d'aller lui régler son compte. Et il y a quelqu'un qui s'en occupait.
Moi, clairement, j'allais lui casser la gueule.
Après, c'était à la fin où ils ont quand même demandé si on voulait porter plainte ou pas.
Ouais.
Ah ouais, vous auriez pu.
Non, parce qu'on en a assez.
Ouais, on avait trop.
On avait assez eu. Ouais.
Mais on nous a proposé de porter plainte.
D'accord. Et il lui arrivait quoi à ce médecin, du coup, vous savez?
Alors moi, je sais. Alors, il est quasiment à la retraite. Donc, ils l'ont mis en. La clinique l'a mis en pré-retraite pour la fin de l'année, là. Mais il a été suspendu 6 mois d'exercice.
Bon. D'accord.
c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Au moins, le conseil de l'ordre l'a puni. Ouais. Voilà.
D'accord.
Mais voilà. Non, le premier trimestre, moi, je sentais que j'étais enceinte. Donc, mm-hmm. j'ai eu le rendez-vous post, des 2 mois post-accouchement. Avec le nouveau gynéco qui m'a suivi pour jusqu'au résultat génétique pour notre fille. Donc lui, j'arrive, je lui dis je pense être enceinte. Il me dit non, c'est pas possible. Je dis si, je vous dis que je pense être enceinte.
Pourquoi c'est pas possible?
La dernière fois, pour lui, c'était trop tôt. Pour lui, il fallait vraiment que je passe par la FIV. Lui, il n'était pas du tout d'accord que on fasse par la méthode naturelle.
Trouvez ça trop risqué?
Voilà, trop risqué.
Ouais.
Et vu que lui, c'est un spécialiste des grossesses patho, grossesse avec vraiment, lui, c'est son dada, il fait que ça, des fives.
Mm-hmm.
Donc, voilà. Donc, et j'étais avec une amie, parce que Thibaut pouvait pas être là à ce rendez-vous. C'est bon, l'utilité pour un toucher vaginal. Donc, avec ma copine, on court à une pharmacie, je fais les tests chez elle. Positif.
Parce que du coup, le gynéco te teste pas, enfin, t'as beau être là, il aurait pu te faire une petite écho ou un truc.
Non,
lui, il est persuadé que non. Donc,
pour lui,
c'était
même vu mon stade où j'en étais, c'était trop tôt.
D'accord.
Donc, je fais mes tests chez ma copine, positif, mais très très léger. Donc, quand je dis que c'est vraiment, c'est la barre, elle était à peine visible. Donc, il m'avait quand même dit, au cas où vous faites un test entre temps positif, vous appelez la maternité, vous vous enregistrez tout de suite. Au moins, on a le temps de préparer au cas où une récidive ou grossesse qui évolue bien.
D'accord.
Donc, j'appelle à 15h. J'avais rendez-vous à 11h, j'appelle à 15h. Donc,
ah oui, tu traînes pas.
Ah oui, moi, je traîne pas. Bah, la Croix-Rousse, c'est quand même l'hôpital public. Donc, il y a du...
D'accord, je connais pas Lyon.
Il y a, enfin, c'est l'hôpital public. On est 3 millions d'habitants... Sur Lyon, sans compter l'aglo.
C'est pas le seul, mais il y a quand même du monde.
Faut s'inscrire limite avant d'être enceinte. Nana, super gentille, on fait les inscriptions par internet, mais bon, elle m'explique comment on fait. Et puis, on transmet une ordonnance pour les hormones bêta-HCG à faire.
Donc, la prise de sang.
Voilà, la prise de sang, que je me dis, je vais quand même attendre. Que j'avais comme on m'avait quand même dit avec le problème de votre conjoint vous avez quand même beaucoup plus de chances de fausse couche que voilà dans les cas où ça récidive c'est soit fausse couche soit le bébé tient mais il est mal formé.
Et alors justement d'ailleurs au moment donc où tu as fait ce test chez ton ami, tu as prévenu tout de suite Thibaut ou tu t'es dit justement je vais attendre un petit peu de voir comment ça se passe?
On a prévenu tout de suite
ton ami. Tu m'as appelé direct,
c'est vrai.
C'est Mélanie aussi. Ouais. Parce que moi, je voulais pas le prévenir. Je voulais lui faire cadeau à Noël en me disant je vais ou même juste plus attendre les analyses.
Pour déjà que tout aille bien.
Pour être sûr que tout aille bien, parce que Thibaut, du fait que ça vienne de lui, ça l'énerve beaucoup. Et ma copine, elle m'a dit non, on n'attend pas. De toute façon, tu peux pas attendre. C'est un deuxième. Tu vas prendre des formes plus vite. On n'attend pas. Puis elle m'a pas laissé trop le choix. Elle l'a appelé. Et puis la maternité, eux, ils m'ont programmé tous les rendez-vous du premier trimestre direct.
Ok. Donc, tu leur as expliqué ton historique ou ils l'avaient du coup?
Oui, ils avaient de toute façon mon dossier, mais elle a associé le nom du médecin à mon nom, elle avait mon dossier, c'était bon, il faut faire ça. Donc, j'ai fait ma prise de sang à la tête supposée de mes règles, donc j'étais quasiment à un mois de grossesse, on va dire. Vu que ça arrive de semaines après la conception, il y a 4 semaines aménorrhée. Très bien positif, 482, je ne pourrais pas faire plus positif.
Super.
Donc j'étais contente, mais en même temps inquiète, en me disant c'est l'épée de Damoclès, ça va récidiver, ne t'attache pas trop. Et puis bon, vu que Thibaut, vu qu'il est consultant à Issoire, donc au niveau de Clermont-Ferrand, donc il y a 2 heures de route entre Lyon et Clermont, pour les rendez-vous, ma copine pouvait pas forcément toujours être là, donc j'ai dû informer sa mère que c'était reparti. Elle était pas contente.
Bon, c'est super que tu t'entendes bien aussi avec ta belle-mère, du coup.
Bon, ben, on a mis du temps à s'apprivoiser, mais oui.
Oui, non, mais ça.
Mais voilà. Donc, bah, j'ai eu l'écho de datation le 6 janvier.
Mm-hmm.
Donc, j'étais à 7 semaines et 6 jours. Un beau embryon, bien grand, bien plus grand que les normes d'ailleurs. Avec un bon petit cœur qui. Donc, voilà. J'ai vu la généticienne 2 jours après pour nous dire, pour parler du protocole PMA dans les cas de, comme dans notre cas en particulier, tous les couples qui ont des anomalies, comment ça se passe. Quand ça se fait méthode naturelle, il n'y a pas de dépistage avant, comment ça se passe.
D'accord.
Donc elle a été très contente hein, que je sois retombée assez rapidement enceinte. Et puis, bon, vu que le bébé accrochait sans aide médicale, pour elle, c'était bon signe.
Mmh.
Donc, puis bon, elle m'a bien rappelé que l'ancien gynéco c'était un gros con. Voilà. Donc, on a programmé une chorio-synthèse pour début février.
Chorio-synthèse, c'est quoi? C'est le cordon ombilical?
Alors chorio-synthèse, c'est un peu comme la myosynthèse, sauf que c'est pas le même endroit qu'on prélève. Donc, la myosynthèse, en fait, c'est on prélève le liquide amniotique. Ça se fait à partir de 15 semaines et la chorio-synthèse, en fait, ça se fait avant. Ça se fait entre 11 et 13 semaines, aménorrhée. Et en fait, on prélève, on gratouille le thromboplasme. Donc, en fait, le thromboplasme, c'est les prémices du placenta.
D'accord.
Mais en fait, on passe toujours par voie abdominale. Donc, c'est une aiguille de 15-20 cm qui rentre dans ton bide, sans anesthésie.
Ah ouais.
Et on te gratte le placenta. Enfin, le thromboplasme, c'est le placenta.
Donc,
c'est
douloureux.
Ça va. La myosynthèse, j'ai eu plus mal. Plus mal. Mais après, Guillaume bougeait quand même beaucoup pendant la myosynthèse. Il n'a pas trop apprécié l'aiguille. Là, elle dormait pendant la chorio-synthèse. Pourtant, j'avais des bonnes contractions, mais je ne sais pas. Parce que c'est fait sous contrôle échographique. Moi, là, j'avais mon gynéco plus un interne en gynécologie, donc plus la sage-femme qui était là pour mon IMG. Donc, voilà, il y a vraiment
beaucoup mieux suivi.
Beaucoup mieux suivi.
Bon, super. C'est hyper important.
Voilà, on a eu la T1, la première échographie obligatoire avant le 31 janvier, où là, entre guillemets, c'était le premier test, on va dire, pour le bébé dans ses mesures. Donc, le gynéco, quand il me voit, il me dit : « Je vous connais ? » Oui, je dis : « Oui, vous m'avez dit que j'étais pas enceinte il y a 2 mois. Il me dit : « Ah, je me souviens. » Il me dit : « Bon, bah, j'avais tort. »
Bon.
Donc voilà, donc on se pose, on trouve bien le bébé. Bon, ils ont quand même vérifié, vu que j'avais à la base, je devais attendre des jumeaux, ils ont quand même vérifié qu'il n'y en avait pas deux. Donc on la trouve bien. Ouais, c'était bien. On la voyait même mieux qu'à la clinique en privé.
Ouais.
Donc le gynéco joue à sa tête, il est concentré.
Ouais, dans ces cas-là, on regarde beaucoup le soignant hein, pour voir s'il a des réactions.
Voilà. Ouais, c'est ça.
On fait beaucoup plus attention à chaque détail pour sûrement essayer de trouver tout de suite s'il y a une anomalie ou pas.
Donc il commence par voir les membres, la paroi abdominale, enfin le contour abdominal, cage thoracique, le cœur. Donc le cœur, on voyait au cordon ombilical déjà que le cœur battait. Donc il a dit déjà c'est bon signe, le cœur bat avant même qu'on voit le cœur bat.
Super.
Il passe sur le cerveau parce que vu que c'était là où Guillaume y avait un problème, mais bon, à ce stade, on voit pas grand chose.
Ouais, elle avait...
C'est tout petit, mais bon, elle avait déjà le cerveau en 2 parties. Voilà.
Super.
Puis, il vient le moment de la clarté nucale où là, on a été. C'était la mesure importante.
Ouais, tu retiens ta respiration.
Et là, on était. Ouais.
Déjà de la voir comparé à ce qu'on avait vu, on était déjà un peu plus rassurés. Et déjà, après qu'il ait fait la mesure, là.
Donc, la mesure, il nous indique qu'elle fait 1,03.
Ah ouais.
Clarté nucale, parfaite.
Génial.
Et vu que madame dormait, elle était de profil. Donc, on était bien. Au bout d'un moment, il essaye d'entendre son cœur. Et puis, bon, là, on n'a pas pu entendre son cœur. Parce que là, elle s'est réveillée. Et puis, bam, 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 bam. Donc, impossible de prendre.
Elle se tournait à chaque fois.
Voilà, elle voulait pas. Mais à sa tête, on a vu même le gynéco. À sa tête, c'était ouf.
Ouais.
Voilà. Mais bon, la généticienne nous avait expliqué quand même que la clarté nucale était fiable à 80%.
Ah, donc du coup, vous preniez encore ces nouvelles avec précaution ou...
Voilà, c'était quand même, elle nous a quand même prévenu, moi, elle m'a prévenu que c'était une mesure importante dans la recherche de trisomie, mais il y avait quand même une marge d'erreur de 20%. Après, en parlant avec son père, il a dit 20% médicalement, c'est important, mais il faut plutôt prendre l'autre chiffre inverse dans ces cas-là pour être plus positif. Il faut pas penser aux 20%, il faut penser aux 80%. Il dit, c'est comparé à 9 chances sur 10 que votre enfant soit trisomique et 80% qu'elle aille très bien. Ah. Voilà. C'était...
Ouais, bien sûr.
Donc, vu qu'elle était bien positionnée, on a bien vu son bourgeon. Donc, l'estimation du sexe à 90% en petite fille.
Ok. Content?
Donc, moi, oui, parce que moi, j'avais quand même peur que si c'était encore un garçon de transposer Guillaume sur le nouveau. Donc voilà, je fais la chorio le 3 février. Ça se passe bien, pas eu de complications. Bon, après, j'étais alitée une semaine, donc...
Ah ouais. Et donc, les résultats du même genre, ça met du temps.
C'est ça, ça se met en deux temps. C'est un peu plus rapide. Il y a la première partie où c'est de la recherche pour la... Pareil, trisomie 21, 13, 18, c'est rapide, c'est en 3-4 jours. Donc, j'ai eu les résultats début de la semaine d'après. Donc là, j'ai l'assistante de la généticienne qui m'a appelée pour me dire que... Enfin, là, c'est un peu plus détaillé parce que vu qu'ils savaient ce qu'ils devaient rechercher, ils ont vraiment même recherché l'anomalie de Thibault direct dans... Donc, on avait déjà en fait un premier prémisse d'analyse pour la translocation dans la première partie et confirmation au bout de 3 semaines.
D'accord.
Donc là, elle m'appelle, elle me dit, puis j'entends à la voix qu'elle était contente. Donc, je me dis, bon.
Ouais.
Elle me dit, j'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Votre bébé n'a aucune trisomie. Donc, moi, je m'en fous de cette info.
Ouais, tu dis, c'était pareil pour Guillaume.
Voilà. Et je lui dis, pour la translocation, votre fille a une translocation chromosomique équilibrée. En vue qu'on nous a expliqué, c'est bon, on a réussi. Et puis elle me dit, est-ce que le docteur Axel Fichès vous a donné une estimation du sexe? Je dis oui, petite fille. Elle me dit, il ne s'est pas trompé. Donc, petite fille. Donc,
super. Tout content.
Thibaut était là, donc moi j'étais dans mon bain un peu, donc j'ai hurlé dans l'appartement, j'ai pleuré, j'étais là, j'ai enfin réussi. Pourquoi j'ai enfin réussi. Bon, on a réussi, mais bon, lui il est quand même un peu déçu qu'elle ait son truc. Mais bon, comme ça, elle est en bonne santé.
Elle est saine, c'est l'essentiel, bien sûr.
Voilà. Et puis on a eu les résultats finaux. Fin février, là c'était ma généticienne qui m'a appelée pour me confirmer que le bébé était en très bonne santé, que maintenant je passais en suivi classique, quand même avec petit risque, quand même une surveillance de loin du service génétique et qu'il fallait qu'on la prévienne pour eux, pour leurs statistiques, quand le bébé était né.
D'accord.
Et puis depuis, je suis suivie par. Une sage-femme en libéral, pas très loin de chez moi. Donc, heureusement, pour le confinement, c'est bien. J'ai pas besoin d'aller bien loin.
C'est clair.
Et puis, pour tout ce qui est les rendez-vous un peu plus techniques, c'est l'hôpital de la Croix-Rousse. Donc, notre prochain rendez-vous, c'est la deuxième échographie obligatoire, le 24 avril.
OK.
Donc, là, déjà, pour nous, ça serait une grosse étape parce que vu que Guillaume en a eu, entre guillemets, vraiment tout l'ascenseur émotionnel qui a commencé à vraiment chuter à ce moment-là.
Ouais. Donc c'est une étape que vous attendez avec impatience, j'imagine.
Voilà. Et puis après, ça sera l'étape des 29 semaines plus 6 quand j'ai accouché de Guillaume. Mais bon, elle a déjà son lit, elle a déjà des affaires. La poussette et le siège auto est commandé. Cette fois-ci... On nous a dit
bien.
Que c'était bon, c'est bon. Mais bon, avec le diabète gestationnel, maintenant on me parle de prématurité, d'accouchement par césarienne programmée. On sort après, moi je m'en fous tant que j'ai mon bébé en bonne santé.
T'as vécu bien plus dur déjà. Ouais,
voilà, Mais bon, par contre, c'est notre dernière chance d'avoir un bébé naturellement. La prochaine fois, étant donné qu'on ne veut pas d'enfant unique, malgré tout, on aura beau lui dire qu'elle a un grand frère, bah, il n'est pas là, son grand frère. Elle va être l'aînée.
Vous allez lui en parler, ouais, de Guillaume ?
Bah, on sera bien obligé de lui en parler, parce que vu qu'elle a cette anomalie, elle aura autant de problèmes de concevoir que son père. Donc on sera bien obligé de lui informer qu'elle a cette particularité, qu'elle peut avoir des enfants daltoniens, vu que le papa est daltonien et que ça se transmet de père en fille.
Ah, d'accord.
Donc, bah, elle sera pas daltonienne, mais elle est porteuse saine du daltonisme, donc elle peut avoir des garçons daltoniens, donc on sera aussi obligé de prévenir. Et puis, bah, en prévenant de cette anomalie, on sera bien. Puis bon, avec le coffret, elle verra bien que. Puis bon, Guillaume est déclaré sur tout ce qui est papier administratif. Donc
bon, il est sur votre livret de famille ?
Bah, on doit faire le livret de famille, parce que ça, on l'attend toujours. Mais bon, j'ai un acte d'état civil pour le livret de famille. Il est déclaré aux impôts, il est déclaré à la CAF. Il est reconnu comme l'enfant numéro 1.
D'accord.
Et puis moi, je veux pas d'enfant unique. On vient tous les deux d'une famille, d'une fratrie de 3. Puis bon, moi, les seules personnes que je connais qui sont enfants uniques sont exécrables. donc, je préfère avoir au moins 2.
Ouais.
Donc, étant donné que bah, là, c'était notre seule chance en naturel, la prochaine fois, ça sera par la fécondation in vitro.
Avec diagnostic préimplantatoire.
Voilà. D'accord. C'est ça. Et mais bon, on s'est dit qu'on se donnait quand même 5-6 ans à partir du moment où elle va être là pour le temps de bien profiter d'elle. De pas se relancer tout de suite dans le protocole. Parce que là, le protocole, il sera bien plus lourd. On m'a quand même expliqué que c'était quand même des stimulations ovariennes, que j'allais avoir, que même si moi, j'ai pas de problème pour concevoir dans mon unité à moi toute seule, j'ai pas de problème. J'ovule très bien, j'ovule même des fois 2 fois. Voilà, j'ai pas de problème pour. C'est juste au niveau de la conception de Thibaut, avec les spermatozoïdes de Thibaut, le mélange se fait mal.
Ouais.
Donc, malgré tout, même si c'est pas moi qui ai le problème, c'est moi qui vais subir tout le protocole.
Ouais.
Donc, les hormones, le prélèvement des ovules, et puis après, on a peut-être. Quand même, elle en rigole un peu, la généticienne, mais moi, je trouve, j'essaye de pas trop m'en vanter, mais on a l'avantage, c'est que, vu que j'ai pas de problème, je suis un bon four, comme elle dit. Du moment que les embryons sont sains et qu'on va me les implanter, il y a quand même moins de risques que ça tienne pas qu'une femme qui a, elle, des problèmes de
fertilité.
Voilà.
Bien sûr.
Mais après, savoir, on verra bien dans 5-6 ans. Mais bon, elle m'a quand même expliqué qu'ils implantaient minimum 3 embryons.
Ah ouais.
Voilà. Enfin, eux, dans leur protocole, ils implantent minimum 3 embryons.
Donc, c'est-à-dire que si ça marche, tu peux te retrouver gâtripé.
Voilà.
Mais dis-donc.
Donc, voilà. Donc, c'est pour ça aussi qu'on attend 5-6 ans, parce qu'il faut aussi
faut être prêt,
se préparer.
Au cas où. Bien sûr.
Au cas où. Mais bon, et après, moi, j'ai dit à Thibaut que c'était dernière. On tente autant de fois qu'on peut de FIV qu'on peut, mais du moment que j'ai une grossesse évolutive, c'est la dernière après Elena, que j'aurai assez donné, on va dire, gynécologique, même physiquement et psychologiquement, que c'était j'ai même parlé de ligature des trompes avec mon gynéco, et il m'a dit que de toute façon lui il le pratiquait et que vu mon parcours, c'était largement justifié.
Bien sûr.
Voilà.
Bon, très bien. Alors là, du coup, Thibaut, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu te projettes du coup dans cette nouvelle grossesse ?
Ben moi, maintenant que je suis, professionnellement stable, on attend de voir. Après, on va voir la suite aussi, oui, effectivement.
T'es content ? Il est un peu plus en retrait parce que déjà Thibaut de caractère, c'est pas quelqu'un très expressif. Comme tu as pu remarquer, c'est plus moi qui parle que lui. Mais non, il est plus dans le retrait. D'ailleurs, c'est ce qui a été, on va dire, la force pendant la période post-IMG. Mm-hmm. Parce qu'en plus, on a un de nos chats qui est décédé le jour où Elena a été conçue, la même date. Mm-hmm. Donc, en plus, qui est morte dans mes bras, un arrêt cardiaque fulgurant. Ouais. Donc, on va dire que moralement, la fin de l'année, moi, c'était pas... ça a été dur. Ouais. Surtout que mon chat, je l'avais depuis qu'elle était née, je l'ai biberonné, c'était mon bébé. Je venais de perdre mon fils biologique, je perds mon chat juste après. Ouais. Voilà, et puis elle est morte dans mes bras, dans la rue, elle a son cadre photo à côté de Guillaume, elle est dans notre coin souvenir. Mm-hmm. Voilà, ça a été dur, et puis le fait qu'il soit un peu en retrait au niveau des émotions, qu'il soit plus le pilier dans ces moments-là, ça a été, on va dire, la force qui a fait qu'on a réussi à tenir.
Ouais. Vous avez fait un petit peu aider sur tout ça. Bon, je sais que vous en avez parlé un peu à ta belle famille, aux parents de Thibaut. Vous en avez parlé à d'autres gens, même à des professionnels, pour vous aider à vous remettre un peu.
Et on a vu une psychologue pour préparer l'IMG.
Surtout toi.
Toi, t'es venu à un seul rendez-vous.
Et puis ça t'a pas aidé toi particulièrement, Thibaut, c'est ce que tu veux dire ?
Non, c'est pour ça. C'est qu'en fait, c'est s'il voulait venir. S'il souhaitait être aidé.
Tu sentais pas ce besoin, quoi.
Voilà. Mais non, moi, j'avais besoin de me préparer psychologiquement Et puis après, j'ai vu la psychologue de la PMA, de la Croix-Rousse, pour préparer la choriosynthèse, préparer une éventualité néfaste encore. Mm-hmm. Après, préparer après potentiellement un parcours FIV.
Ouais.
Donc là, la psychologue, elle me suit toujours, mais par mail. Donc, avec le confinement, on n'a pas trop le choix.
Bien sûr.
Mais après, j'ai trouvé une sage-femme très psychologue, très. On parle vraiment de mon ressenti. Après,
d'accord, donc j'ai toujours suivi, du coup.
Ouais. Après, j'ai voulu en parler avec des associations. Donc, on va dire la seule qui a été, où j'ai eu un accueil favorable. Donc, toutes mes demandes, c'est À Nos Étoiles, c'est Julie que je remercie, qui a été vachement allée à moi à l'écoute. Mm-hmm. Parce que sinon, sur les forums de mamans, donc il y a forcément des mamans, j'ai eu des propos. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, je me suis fait traiter de meurtrière, de mère irresponsable, parce que j'étais égoïste, que j'avais fait passer mon confort financier par rapport à l'handicap de mon fils, que je n'assumais pas l'handicap de mon fils. J'ai eu des menaces de mort.
Ouais, ça allait vachement loin.
Ah oui, ça allait vachement loin. Ah, j'ai quitté, je ne vais pas le citer parce que je n'ai pas envie d'avoir des merdes avec l'application, mais ouais, c'est allé très loin. Ou même eux, quand je leur signalais en leur montrant les messages que je recevais, ils me disaient « Bah oui, mais vous alimentez. »
Ah ouais, d'accord, c'est une belle manière de gérer
le harcèlement. Ou j'ai eu d'autres mamans qui me disaient « Mais non, t'as pas le droit à la prime de naissance. » Alors que si, on a le droit à la prime de naissance passé un certain stade de grossesse. T'as pas le droit à ça, t'as pas le droit à ci, le bébé il est pas déclaré. Bon, la loi elle date de 2008, on est quand même en 2020. Elle est pas jeune, la loi,
Ouais.
Donc, mais bon, j'ai eu plus de rejets et bon, j'avais la psy à côté qui me dit non, mais qui elle m'avait conseillé de parler avec des mamans. Et quand elle a vu le retour que j'avais, elle m'a dit non, restez dans votre coin.
Ouais. Putain, c'est dingue.
Ouais.
Et alors, donc, À Nos Étoiles, par contre, t'as permis de connecter.
Ouais. Elle l'a subi elle-même. En plus, dernièrement, elle a eu son petit problème aussi.
Ouais.
Mais on a pu parler de ce ressenti de culpabilité, de cette sensation quand il y a la fonction de plénitude, entre guillemets, en se disant « c'est bon, il est parti ». Non, puis on va dire la famille, les amis, et puis la psychologue, et puis, Et puis, exceptionnellement, des copines qui sont anti-avortement, qui m'ont soutenue. en me disant que en fait leur choix anti-avortement c'était pour elles et que dans ma situation, vu ma détresse, comment elles m'entendaient pleurer, eh ben elles pouvaient pas me dire mais en fait ce que tu fais c'est mal.
Bien sûr.
C'est...
Il n'y a pas plus personnel comme choix.
Voilà.
C'est... Bien sûr.
C'est mieux là. Mais bon, tous les mois au niveau du 10, moi j'ai mon petit moment de nostalgie, enfin de tristesse.
Mais c'est encore vachement frais aussi tout ça, c'est normal.
Oui, c'est frais et puis on n'a pas encore le premier anniversaire.
Ouais,
bien sûr. Donc bon, là maintenant on se prépare, on se demande comment le suivi grossesse va être fait avec le confinement, si ça va être prolongé jusqu'à août, comment ça va se passer l'accouchement, comment ouais. Ça...
Bien sûr, j'imagine que c'est une autre encore source d'angoisse.
C'est plus moi l'angoisse qui nous importe, c'est que par exemple là pour la maternité autorise le papa mm-hmm. en salle de naissance pour l'instant, mais pas au suivi. Donc bah par exemple Thibaut il est frustré parce que il est là et il est un peu plus présent par rapport à la première grossesse, donc un peu plus investi et maintenant que le bébé va bien, bah il peut vraiment s'impliquer à 100% émotionnellement et là bah on lui enlève ça. Lui, il sent pas les coups, enfin, il sent pas intérieurement les coups, même s'il les sent avec sa main, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est.
Ouais,
bien sûr. Je savais que cette grossesse allait être aussi chelou.
Ah bon? Tu le sentais?
Ouais, je suis pas pourquoi,
Bon.
Voilà. Mais bon, moi, je t'ai contacté, c'était surtout pour qu'on puisse, enfin, qu'il y ait quelqu'un qui parle, en fait, de cette translocation. Parce qu'en réalité, au niveau des chiffres statistiques, la translocation chromosomique de tous les chromosomes, c'est un cas sur 500 en France.
Ouais.
C'est courant et aucun médecin n'en parle. Sauf si on est suivi directement en PMA ou si ça nous arrive, mais personne n'en parle. Et c'est impressionnant pour un truc qui est quand même assez courant,
mmh.
qu'on n'en parle pas ou au moins on prévienne. Et même, je me demande si ce serait pas pour les gens qui prévoient une grossesse, si ce serait pas bien de faire des tests génétiques avant de se lancer, pour éviter justement ce genre de mésaventures.
T'avais écouté l'histoire de Charlotte dans l'épisode 5 qui nous parle justement des diagnostics préimplantatoires. Elle est en parcours et ses bébés, elle, de son côté. Je vais vous poser la question à chacun d'entre vous. Donc, est-ce que toi, tu aurais un conseil à te donner et à donner peut-être à ton couple il y a 2 ans quand vous vous êtes lancé dans les essais bébés. Puis j'aimerais bien poser après la même question à Thibaut.
M'écoutez, pas écouter les médecins. Écoutez mon ressenti parce que pour le sexe, je voulais le regarder, il a refusé qu'on regarde. Mais s'il m'avait écouté, on aurait peut-être vu déjà cette atrophie. Et puis vraiment, j'avais j'avais un sentiment intérieur qui me disait qu'il y avait un problème. C'est peut-être mon instinct de maman qui s'était peut-être mis en place. Mais par exemple pour Elena, je savais que j'avais dans ma tête ça se passait bien, mais m'écouter plus et moins écouter les médecins, enfin écouter quand même les médecins mais plus écouter mon ressenti intérieur que c'est voilà, si je sens qu'il y a quelque chose qui va pas.
Et c'est vrai que dans une première grossesse on a un peu tendance comme c'est justement la première fois en fait à ne pas tout écouter, en fait, ce qui se passe en nous, à se dire bah moi je sais pas, je vais complètement écouter les médecins et
oui,
un peu à diminuer finalement ce qu'on ressent.
Non, alors,
ouais, bien sûr. Et toi, Thibaut ?
Bon, ça n'est pas très original, hein, c'est soutenir à fond, toujours. Et, et toujours essayer de surmonter ce genre de problème, toujours ensemble, c'est tout.
Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à vous donner, même à donner à d'autres personnes qui passeraient par là, sur comment prendre soin on a parlé un petit peu du couple, mais même de vous personnellement, dans ces moments qui sont difficiles.
Bon, après, ça, c'est propre à chacun.
Mais nous, on s'est, pour la partie pendant l'IMG, Thibaut m'a beaucoup payé de glace, beaucoup à manger, parce que malheureusement, comme beaucoup de femmes, je pense, quand ça ne va pas, je mange.
Mm-hmm.
Mais ouais, c'est se reconcentrer sur le couple. Même si la famille, c'est important, les amis qui sont là pour soutenir, mais c'est quand même une épreuve qu'on vit à deux. Et comme on m'avait prévenu qu'il y avait quand même beaucoup de couples qui se séparaient par rapport à des épreuves comme ça, c'était trop gros. Mais c'était des couples où justement, ils étaient chacun dans leur tristesse. C'est vraiment se reconcentrer sur les deux et vivre le deuil à deux. Et se parler, on s'est quand même engueulé, hein. Moi j'ai eu ma phase où où bah, j'étais complètement déprimée, c'est Thibaut qui me portait. Et Thibaut a eu sa phase de déprime où quand Thibaut il est vraiment pas bien, il est hyper agressif et il s'en prend à la première personne qui passe dans son champ de vision. Sauf que bah, à ce moment-là, c'était moi. Et moi, je n'ai pas un caractère à me laisser marcher dessus. Donc, on s'est engueulé une fois méchamment, voilà, où les reproches ont fusé, mais ça a été la seule fois. Je dis pas que c'est une éviter de s'engueuler, mais essayer de se reconcentrer. On a quand même fêté mon anniversaire, on a fêté Noël, mais alors que c'était la date d'accouchement.
Ouais. On a continue eu... à vivre, voilà, on a... faut pas s'arrêter. Ouais. Faut pas s'arrêter, c'est un échec, certes, mais faut pas s'arrêter là-dessus.
Ouais, voilà, bien sûr.
Mais il faut vivre le truc à deux, pas à chacun de son côté.
C'est comme je dis, c'est propre à chacun, parce que ça, c'est facile bien à sûr. Dire. Voilà. Après, voilà, chacun vit différemment ce genre
bien
de
choses. Bien sûr, bien sûr. Après, c'est ce qui a marché pour vous. Voilà. Ouais, bien sûr.
Après, on est très complémentaires, donc c'est peut-être ça. La psychologue qui nous suivait pour l'IMG nous avait dit que...
C'est Alice qui parle pour moi, comme ça. Moi, je suis pas là, elle parle.
Non, mais c'est pas ça. Mais elle avait dit, la psychologue, oui, qu'elle, dans son ressenti premier, c'est que notre couple était très fort de base. Même si on était entre guillemets un jeune couple, soi-disant un jeune couple, c'est entre 10 ans de couple, mais qu'on était quand même assez solide et assez complémentaire et qu'en fait on allait avoir, elle avait un peu prédit qu'on allait chacun avoir notre période de craquage, mais qu'il fallait vraiment tout de suite reprendre l'autre, le soutenir. Après, bon, malheureusement, s'il y a des couples qui se séparent, après, on peut dans ces cas, dans ces histoires comme ça, on peut pas leur lancer la pierre, hein, c'est quand même lourd.
Non, c'est sûr.
Et après, surtout faire force et pas écouter les autres.
Très bien. C'est une magnifique conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous auriez voulu ajouter avant qu'on se dise au revoir?
Ouais, alors si, il y a peut-être un truc. On va pas parler au début. Alice, quand elle m'a présenté ce matin en me disant que j'étais, au début, en me disant que j'étais un alien, c'est tout simplement parce que une translocation comme j'ai n'est pas génétique. Peut s'apparaître comme ça. C'est-à-dire que coup, quand on a fait nous les tests de notre côté pour savoir justement ce genre de problème, mes parents du coup ont fait aussi de leur côté.
Mm-hmm. Et ils ne sont pas porteurs.
Et s'assurer que du coup mon frère et ma sœur n'aient pas aussi cette anomalie. Mm-hmm. En fait, il s'est révélé qu'eux ils sont sains, que tout va bien. Donc en fait,
c'est le premier cas.
C'est voilà, moi ça s'est fait comme ça.
C'est rare, ça arrive, mais ça arrive. C'est le premier cas et Elena sera le deuxième cas de la famille.
Voilà, donc après, bon, c'est pas forcément un cadeau, mais voilà, ça arrive. Il faut pas, parce que, bon, peut-être pour les gens pour qui c'est un parent ou encore même avant, ça sert à rien de leur en vouloir, parce que de toute façon, c'est comme ça. Et puis, y a pas de...
Non, on gère si pas on la génétique.
Si on le sait pas d'ailleurs, si on le sait pas, parce que nous, s'il n'y aurait pas eu Guillaume, on n'aurait jamais su.
Ouais.
Donc c'est voilà, faut pas remonter à chaque fois à venir taper sur celui d'où ça vient, parce que c'est comme ça.
De toute façon, déjà avec le daltonisme dans ta famille, tous les garçons.
C'est beaucoup plus fort,
oui, mais dans ta famille, ce que je veux dire, c'est que avec le daltonisme, déjà vous avez un recul par rapport au tout ce qui se transmet.
On sait que ça vient de la famille, que ça s'est porté de génération en génération. Mais voilà, c'est beaucoup moins grave par rapport à notre cas. Quoi, c'est tout.
Mais voilà, Thibaut, c'est le petit dernier de la fratrie, et puis bah c'est arrivé comme ça sur lui. Ça s'appelle de nouveau. Mais bon, moi, ses parents ne sont pas porteurs. Enfin, son frère, sa mère a pu se rassurer. Tout le monde est sain dans sa famille. Voilà. Puis bon, il a d'autres problèmes, on va dire, de extérieurs, des problèmes génétiques, voilà, il a des problèmes de scoliose, il a le daltonisme, donc entre guillemets, ça fait une petite accumulation de petits problèmes qui fait que, puis c'est dans sa famille, à part le daltonisme, son frère daltonien, mais c'est un peu celui qui accumule un peu, comme il dit, les merdes de toute la famille, donc il se considère un peu comme l'alien de.
Surtout parce que j'ai un truc que personne n'a.
Oui.
En tout cas, t'es un alien très sympa.
Ça énerve sa mère, mais bon. Ça fait rire son père, ça énerve sa mère, mais voilà.
C'est ça, faut mieux en rigoler quand même, sinon on déprime vite.
Mais t'as bien
surtout quand on le fait succéder.
Donc on va avoir un autre alien.
Félicitations.
Voilà. Je peux faire le remake de Alien vs Predator avec l'alien qui est sur des.
Bon, bah très bien. Mais écoutez, en tout cas, je vous dis à tous les deux, Alice, Thibaut, un immense merci d'avoir partagé l'histoire de Guillaume et puis l'histoire d'Elena, l'histoire de votre famille. Je pense que c'était super intéressant. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille et personnellement. Et puis, tenez-nous au courant de l'arrivée d'Elena. J'aurai plaisir à partager ça avec les auditeurs. À très bientôt. Okay.
Merci.
À bientôt, merci.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.